Lecture de la deuxième conférence donnée par Rudolf Steiner le 17 mai 1910 à Hambourg, extraite du cycle de conférences intitulé « Manifestation du karma », bibliographie GA 120, publiée d'après un sténogramme non revu par le conférencier. Cette conférence a été intitulée par les éditeurs « Le karma et le règne animal ». Quelques considérations préliminaires sont nécessaires avant d'aborder le karma humain proprement dit. Une question se pose tout d'abord. Quelle relation y a-t-il entre ce que nous appelons la vie des animaux, la destinée animale et le cours karmique de l'humanité? Les relations des êtres humains avec le règne animal sur la Terre varient selon les époques et d'un peuple à l'autre. Il n'est certes pas sans intérêt de constater que les peuples qui ont conservé la meilleure part de l'antique sagesse sacrée traitent les animaux avec infiniment de pitié et d'amour. Au sein du bouddhisme, par exemple, qui a gardé des parties importantes des anciennes cosmogonies, les êtres humains avaient à l'origine une façon de traiter les animaux empreinte d'une compréhension et d'une compassion profonde. Nous trouvons là des sentiments à l'égard du monde animal qui restent incompréhensibles à d'innombrables Européens. Chez d'autres peuples aussi, rappelez-vous l'arabe et la manière dont il traite son cheval, surtout quand ces peuples ont conservé quelque chose des anciennes conceptions, vous trouverez une sorte de pitié pour les animaux et d'amitié, pourrait-on dire, dans la manière dont on les traite. Par contre, dans les régions où se prépare la future conception destinée à prendre pied dans les contrées occidentales, cette compassion envers le règne animal n'est guère comprise. C'est un fait caractéristique au cours du Moyen Âge et jusqu'à notre époque, précisément dans les pays où s'est propagée la doctrine chrétienne, l'idée a pu se faire jour qu'il ne fallait pas attribuer de vie psychique aux animaux, mais une sorte d'automatisme. Cette théorie occidentale de l'automatisme des bêtes et de l'absence chez elles d'une véritable vie animique pourrait bien avoir filtré jusqu'au milieu populaire, qui ne connaissent aucune pitié pour les animaux et souvent même aucune borne à leur cruauté envers eux. La chose est même allée si loin qu'on a pu se méprendre sur la pensée d'un des plus grands philosophes des temps modernes, Descartes. Il va sans dire que les esprits véritablement éminents qui représentent la culture occidentale n'ont jamais proféré cette doctrine de l'automatisme animal. Descartes n'écrivit jamais pareille théorie, bien qu'on le prétende. Il n'attribue pas aux animaux, certes une nature animique capable de se développer jusqu'à trouver dans leur conscience individuelle une preuve de l'existence de Dieu. Il admet cependant qu'ils sont animés, imprégnés par ce qu'on appelle les esprits vitaux. Ceux-ci ne présentent pas une individualité aussi déterminée que celle du jeu humain, mais ils jouent cependant le rôle d'âme dans l'organisme animal. Il est bien caractéristique qu'on ait pu se méprendre aussi grossièrement sur Descartes, car cela nous prouve la tendance occidentale à n'attribuer aux animaux qu'un simple automatisme. La culture occidentale a ceci de particulier qu'elle a dû se constituer avec des éléments matérialistes. Et la puissante impulsion donnée à l'évolution humaine par le christianisme s'est d'abord exercée dans cet esprit occidental. Le matérialisme des temps modernes est une conséquence de ce fait. La doctrine la plus spirituelle elle-même, le christianisme a commencé en Occident par une alliance avec la conception matérialiste. C'est la destinée des peuples occidentaux de devoir partir de cette base pour en dépasser ensuite les tendances en triomphant d'elles. Cette progression développe les grandes forces qui mèneront ces peuples au spiritualisme le plus élevé. C'est une conséquence de cette destinée, de ce karma, que les peuples occidentaux soient enclins à ne voir dans les animaux que des automates. Quand on ne sait pas bien pénétrer jusqu'à la vie spirituelle, quand on doit s'en tenir au monde extérieur sensible, on est facilement porté vers une conception du monde animal qui n'accorde aux bêtes qu'une place des plus inférieures. Par contre, là où on a conservé certains éléments de l'ancienne conception spirituelle de la sagesse primordiale, une sorte de connaissance de ce qu'il y a de spirituel dans le règne animal a subsisté. Et malgré tous les défauts de compréhension, malgré toutes les erreurs qui se sont glissées dans la doctrine de ces peuples pour en ternir la pureté, ils n'ont pu oublier que des activités, des lois spirituelles se manifestent dans la vie et dans la formation des espèces animales. S'il faut donc attribuer à l'absence d'une conception spirituelle du monde l'incompréhension courante à l'égard de l'âme des bêtes, il faut d'autre part se rendre bien compte que ce serait obéir à une pure conception matérialiste que d'appliquer au monde animal l'idée de karma qui sert à comprendre la destinée humaine. Nous avons fait remarquer hier qu'il était nécessaire de s'assimiler avec une grande exactitude le concept de karma. Nous ferions fausse route si nous cherchions dans le monde animal la réaction de l'effet sur l'être dont émane la cause. Nous n'apprendrons à connaître, dans une plus vaste mesure, la loi karmique qu'en dépassant la vie comprise entre la naissance et la mort pour suivre l'être humain à travers la succession de ses réincarnations et constater que l'effet d'une cause engendrée dans une vie ne peut se produire que dans les vies suivantes. L'étude élémentaire de la science de l'esprit nous a déjà appris que nous ne pouvons pas parler de réincarnation quand il s'agit de l'animal. Dans le monde animal, nous ne trouvons absolument rien qui corresponde entièrement à l'individualité humaine et qui subsiste avec sa vie propre pendant le temps qui s'écoule entre la mort et une nouvelle naissance pour revenir ensuite à l'existence par voie de réincarnation. Nous ne pouvons envisager la mort animale de la même manière que nous concevons la mort humaine. Ce serait commettre une grande erreur que de vouloir chercher dans un animal actuellement vivant l'être réincarné d'un animal ayant déjà existé autrefois sur la Terre, comme nous devons le faire pour l'être humain. De nos jours, où l'on est porté à envisager que le côté extérieur des choses sans se préoccuper de l'intérieur, les véritables contrastes qui existent entre l'être humain et l'animal passent inaperçus. Extérieurement, le phénomène de la mort apparaît identique. Et en considérant la vie de l'animal entre sa naissance et sa mort, on pourrait supposer facilement que certains éléments de la vie d'un animal sont comparables à certains événements de la vie personnelle de l'être humain. Ce serait une erreur. C'est pourquoi nous allons montrer par des exemples les différences profondes qui existent entre l'être humain et l'animal. Celui-là seul peut se rendre compte de ces différences qui ne se contentent pas d'examiner les faits tombant sous l'observation des sens, mais qui envisage aussi ceux qui se révèlent à sa réflexion. Celle-ci nous découvre un phénomène qui a frappé les naturalistes modernes, mais dont ils ne savent guère tirer parti. C'est le fait que l'être humain est obligé d'apprendre les choses les plus simples. Au cours de son histoire, l'usage des instruments a dû lui être enseigné, et aujourd'hui encore, nos enfants mettent un certain temps à les apprendre. Ce n'est pas sans peine que l'on enseigne quelque chose à un être humain, fût-ce la façon de manier les outils les plus ordinaires. L'observation des animaux, par contre, nous force à envier leur sort. Le castor construit lui-même sa demeure si compliquée. Il le fait selon une loi de sa nature qu'il apporte en naissant. Comme nous, en tant qu'êtres humains, nous apportons la faculté, l'art, entre guillemets, de changer de dents vers l'âge de 7 ans. Personne n'a besoin de nous apprendre cela. Si vous élargissez le cercle de vos observations sur le règne animal, vous trouverez que les bêtes apportent en naissant des dons d'adresse qui leur permettent de faire des choses que l'art humain, si merveilleux qu'il soit, est loin d'égaler. On peut se demander comment il se fait que l'être humain vienne au monde plus maladroit qu'une poule ou un castor et qu'il doive acquérir ce que ceux-ci apportent en naissant. C'est là une grande question. Et il est bien moins important d'acquérir des masses de connaissances que de savoir quelles sont les questions essentielles à poser. Cela nous conduirait trop loin d'étudier en détail les causes de ces phénomènes. Mais disons-en quelques mots. Si nous remontons le cours de l'évolution humaine jusqu'à un très lointain passé, nous trouvons que l'être humain a possédé comme un don inné les forces dont dispose le castor ou tout autre animal. L'être humain, à une époque primitive, n'a pas reçu pour toute aptitude la maladresse, tandis que l'habileté originelle aurait été conférée aux animaux. Lui aussi fut doté de ce principe, et même dans une bien plus large mesure que l'animal. Car si les animaux apportent au monde de merveilleuses habiletés, celles-ci sont, en fait, limitées à une activité spéciale. L'être humain, en réalité, ne sait rien de naissance, il a tout à apprendre en ce qui concerne la vie extérieure. Mais en s'instruisant, il se montre bientôt plus capable que les animaux de développer en lui certaines aptitudes qu'il possède. À l'origine, il fut doté de nombreuses dispositions, et aujourd'hui, il ne les a plus. À l'origine, l'être humain et l'animal étaient en réalité doués des mêmes facultés. Et si nous remontions jusqu'à une ancienne évolution saturnienne, nous verrions qu'aucune différenciation n'existe encore entre l'évolution de l'être humain et celle des animaux. Toutes les aptitudes étaient communes aux deux. Qu'est-il donc arrivé depuis pour que l'animal apporte au monde toutes sortes de capacités instinctives, tandis que l'être humain est le grand maladroit de la vie universelle? Comment l'être humain s'y est-il pris pour n'avoir plus rien de ce qu'il possédait? L'a-t-il follement dissipé au cours de l'évolution, tandis que les bêtes, en ménagères économes, auraient tout gardé? On peut se le demander en envisageant l'état réel des choses. L'être humain n'a pas dissipé les aptitudes qui trouvent aujourd'hui leur emploi dans l'habileté extérieure de l'animal, mais il les a employées à autre chose. Les animaux les ont appliquées à des travaux extérieurs. Le castor et la guêpe construisent leur nid. L'être humain a concentré ses forces en lui-même, et il en résulte ce que nous appelons l'organisme supérieur de l'être humain. Ne lui fallait-il pas des forces pour acquérir la station droite, le perfectionnement de son cerveau et, en général, de son organisme interne? Ces forces sont les mêmes que celles qui permettent au castor de construire sa demeure. L'être humain les a appliquées à la formation de son cerveau et de ses autres organes. C'est pourquoi il ne lui reste plus rien pour exécuter le même travail extérieur que l'animal. Si donc nous sommes aujourd'hui dans notre constitution plus parfaite que les animaux, c'est que pour l'édifier, nous avons employé intérieurement tout ce que le castor applique extérieurement pour construire sa maison. C'est au-dedans que nous avons construit, et c'est pourquoi nous ne pouvons plus diriger ces forces vers le dehors. Si nous nous en tenons à la conception unitaire du monde, nous comprendrons l'origine des diverses aptitudes et la façon dont elles se présentent à nous actuellement. Pourquoi l'être humain dut-il tourner vers son organisation intérieure les forces qui s'expriment en habileté extérieure chez les différentes familles et espèces d'animaux? Parce que c'est uniquement en acquérant un organisme intérieur qu'il a pu devenir le porteur du « je » qu'il possède aujourd'hui, de ce « je » qui progresse d'incarnation en incarnation. Un autre organisme ne l'aurait pas pu. La possibilité pour un individu « je » d'agir dans l'existence terrestre dépend absolument de la demeure qui lui est offerte. Il ne pourrait pas se manifester dans un organisme si celui-ci ne lui convenait pas. Tout devait tendre, par conséquent, à adapter l'organisme à cette individualité « je ». Et il fallait pour cela que des dispositions spéciales fussent prises. Nous savons que notre évolution terrestre fut précédée de l'évolution lunaire, précédée de l'évolution solaire, précédée à son tour de l'évolution saturnienne. À la fin de l'ancienne lune, l'être humain, au point de vue de sa vie extérieure, se trouvait à un degré de développement que l'on pourrait appeler celui de l'humanité animale. À ce moment, l'organisme humain n'aurait pu encore devenir le porteur de l'individu « je ». C'est à l'évolution terrestre qu'incombait la tâche de lui incorporer. Mais ce n'était possible qu'en réglant d'une façon toute particulière le cours de notre évolution terrestre. Quand s'acheva l'évolution de l'ancienne lune, tout se désagrégea, pour ainsi dire, dans le chaos. Après un certain temps de crépuscule cosmique, un nouvel univers ressurgit du chaos, celui de notre système solaire. Plus tard seulement, cette unité cosmique fut divisée. Tous les corps célestes se détachèrent de notre Terre proprement dite. Nous ne pouvons expliquer ici comment se détachèrent les planètes Mars, Jupiter, etc. Rappelons seulement qu'à un moment donné de la phase terrestre de l'évolution, notre Terre et notre Soleil se séparèrent. Cette séparation avait déjà eu lieu et le Soleil envoyait du dehors son action sur la Terre, que celle-ci était encore unie à la Lune actuelle, ainsi qu'aux substances et forces spirituelles aujourd'hui incorporées à la Lune. Souvent, déjà, nous nous sommes demandé ce qui serait arrivé si le Soleil n'avait pas quitté la Terre et passé dans son état actuel pour agir du dehors sur elle. Note de l'éditeur, voir les mystères de la Genèse, un livre de Rudolf Steiner. Fin de la note. Au commencement, quand la Terre était encore unie au Soleil, les conditions étaient toutes différentes et le système cosmique tout entier, y compris les ancêtres des organismes humains, ne faisait encore qu'une unité. Il est évidemment absurde de considérer les conditions actuelles et de dire « quel non-sens débitent ces anthroposophes ! Tous les êtres organisés n'eussent-ils pas été brûlés dans ce cas ?» Mais ces êtres étaient précisément organisés de manière à pouvoir vivre dans les conditions de cette époque. Si le Soleil était resté uni à la Terre, des forces toutes différentes, beaucoup plus violentes, seraient restées en elle. L'évolution eût été si rapide, si violente, que l'organisme humain n'aurait pu se développer comme il le fallait. Un mouvement plus lent et des forces plus denses devaient être accordées à la Terre. Il fallait pour cela que les forces violentes, véhémentes, la quittassent. L'affaiblissement des forces solaires est donc dû surtout au fait que, grâce à leur éloignement, elles s'exercent dorénavant du dehors. Ce fait eut une autre conséquence. L'état de la Terre était maintenant trop dense et exerçait une action pétrifiante, desséchante sur toute vie. Si les choses en étaient restées là, l'être humain n'aurait toujours pas pu se développer, mais un processus particulier vint y remédier. Quelque temps après la sortie du Soleil, la Lune actuelle se détacha de la Terre, emportant les forces ralentissantes qui auraient fait de la vie une mort lente. La Terre resta ainsi entre le Soleil et la Lune, adoptant le milieu qui convenait exactement à l'organisme humain pour que celui-ci pût recevoir le « je » et être le porteur de l'individualité qui passe d'incarnation en incarnation. Il n'y avait que ce seul moyen de faire mûrir l'organisme humain au sein du cosmos. Détacher le Soleil d'abord, et plus tard la Lune. Certaines personnes seraient peut-être tentées de dire « Si j'avais été Dieu, je m'y serais pris autrement. J'aurais dès le début fait une combinaison qui aurait permis à l'organisme humain de se développer comme il convenait. Quelle nécessité y avait-il à ce que le soleil puis la lune quittassent la terre ?» C'est là faire un raisonnement beaucoup trop abstrait et ne pas songer que la création, au sein de l'ordre universel, d'un tout harmonieusement divers comme est l'être humain, nécessite une organisation particulière de chacune de ses parties, et qu'on ne peut transposer dans la réalité ce que la pensée de l'être humain invente et imagine. De façon abstraite, on peut tout penser, mais dans la véritable science de l'esprit, il faut apprendre à penser concrètement. On est amené à se dire « l'organisme humain n'est pas simple. Il comprend un corps physique, un corps éthérique, un corps astral. Il fallait qu'un certain équilibre s'établisse d'abord entre ces trois parties, de manière à ce qu'elles soient entre elles dans un rapport convenable. Ceci ne se pouvait que par un triple processus. D'abord la formation d'un univers d'ensemble, d'une unité cosmique, Terre, Soleil et Lune étant réunis, puis le Soleil dut être séparé de la masse, car il fallait ralentir son action sur le corps éthérique, sinon celui-ci eût été un stimulant trop violent pour l'évolution. Mais ensuite, le danger contraire apparut, le corps astral menaçant d'entraîner l'organisme humain à la mort, l'expulsion de la Lune eut lieu. C'est parce que l'organisme de l'être humain est triple que ce triple processus se produisit. Nous voyons ainsi que l'être humain doit à un phénomène cosmique très complexe les facultés dont il dispose aujourd'hui. Mais nous savons aussi que tous les règnes de la nature ne peuvent suivre la marche générale de l'évolution. L'exposé que nous avons donné de ces faits au cours des dernières années nous a montré que dans chaque incarnation planétaire de notre Terre, certaines entités restent en arrière de l'évolution générale. Ensuite, quand l'évolution avance, elles vivent dans des conditions qui ne correspondent plus tout à fait à cette évolution. Mais au fond, toute évolution n'acquiert un réel élan que grâce au retard de ces entités. Ne savons-nous pas en effet que certains êtres sont restés en arrière pendant l'évolution lunaire, les entités lucifériennes, et qu'elles sont cause de beaucoup de mal, mais que nous leur devons aussi ce qui seul a rendu possible l'individualité humaine, la liberté, le libre épanouissement de notre être intérieur. Dans un certain sens, le retard des entités lucifériennes fut un sacrifice. Elles restèrent en arrière pour pouvoir, pendant l'état terrestre, exercer certaines activités particulières et inoculer à l'être humain les passions qui sont liées à sa dignité humaine et à son libre arbitre. Nous devons donc nous habituer à des conceptions très différentes des conceptions ordinaires. Une mentalité courante pourrait peut-être s'imaginer que les esprits lucifériens ne purent faire autrement que rester en arrière et on ne leur pardonnerait pas leur négligence. Mais il n'y a pas eu de négligence de leur part. Leur retard, sous certains rapports, fut un sacrifice dans le but d'acquérir les moyens nécessaires pour agir sur notre humanité terrestre. Nous avons dit hier qu'il y eut non seulement des entités, mais aussi des substances qui restèrent en arrière. Celles-ci sont soumises jusqu'à présent à des lois qui convenaient à des états planétaires antérieurs et qu'elles ont transportées dans la suite de l'évolution. C'est ainsi que se croisent et s'enchevêtrent des phases d'évolution anciennes et nouvelles. Cela seul permet la multiplicité de la vie et offre les degrés d'existence les plus divers. Le règne animal n'aurait jamais pu se développer à côté du règne humain si, à la fin de la période saturnienne, certains êtres ne s'étaient pas arrêtés dans leur évolution pour constituer sur l'ancien soleil un second règne, à côté des êtres humains qui s'étaient déjà élevés à un degré supérieur. Ce retard fut absolument nécessaire pour constituer la base à venir. Pourquoi des entités et des substances ont-elles dû ainsi rester en arrière? Je voudrais répondre par une comparaison. L'évolution humaine devait progresser par degrés. Il fallait pour cela que l'être humain s'affine progressivement. Il serait resté sur place s'il s'était servi des mêmes forces que pendant l'évolution saturnienne. Il fallait que ces forces soient travaillées. Prenons comme comparaison un verre d'eau dans lequel une matière quelconque se trouve dissoute. Le liquide tout entier présentera la même coloration, la même densité, etc. Il sera pareil du haut en bas. Supposons maintenant que les parties les plus grossières se déposent au fond. L'eau se purifie et les substances les plus fines surnagent. L'eau n'a donc pu se purifier qu'en éliminant les éléments les plus grossiers. C'est ainsi qu'à la fin de l'évolution saturnienne, un dépôt se forma. L'humanité se débarrassa de certains éléments pour ne garder que les parties subtiles. Les parties qui se déposèrent ont formé plus tard le règne animal. Grâce à ce dépôt, les autres êtres purent s'affiner et s'élever d'un degré. Et à chaque degré, des êtres durent être éliminés afin que l'être humain puisse s'élever toujours davantage. Notre humanité n'a donc pu se former qu'en se délivrant des êtres qui vivent autour de nous dans les règnes inférieurs. Jadis, ces êtres ont fait partie de notre courant d'évolution. Ils ont été unis à nous comme les matières plus denses en suspension dans l'eau. Nous les avons laissés s'enfoncer et former une base sur laquelle nous nous élevons. Abaissons le regard vers les trois règnes inférieurs de la nature qui vivent auprès de nous et disons-nous bien que voici le sol sur lequel nous avons pu croître. Ces êtres se sont abaissés pour nous permettre de nous élever. Par là, nous comprenons mieux les règnes de la nature. L'étude de l'évolution terrestre nous éclairera encore davantage sur les détails de ce processus. Rappelons-nous que tout se tient dans notre évolution terrestre. La séparation du Soleil et celle de la Lune ont eu lieu en réalité pour le bien de l'organisme humain, dans le but de lui permettre d'atteindre, au cours de l'évolution terrestre, le degré de développement correspondant à l'individualité. Ces séparations furent nécessaires pour purifier l'organisme humain. Mais si elles eurent lieu au sein de l'univers à cause de l'être humain, elles ne furent pas sans exercer une influence sur les trois autres règnes de la nature et en particulier sur le règne animal, qui nous est le plus voisin. Voici ce que nous révèle l'investigation spirituelle au sujet de cette influence. L'être humain avait atteint un certain degré d'évolution lorsque le soleil se sépara. Or, s'il avait dû rester au degré qu'il occupait quand la lune était encore unie à la terre, son organisme actuel n'aurait pas pu se former. Il aurait succombé à une sorte d'appauvrissement, de dessèchement. Il fallait donc commencer par débarrasser la terre des forces lunaires. Car l'organisme humain devait rester malléable. Il aurait pu, en effet, s'être déjà durci à tel point que l'expulsion de la Lune ne puisse plus y remédier. Que se produisit-il donc jusqu'au moment de la séparation de la Lune? L'organisme humain devenait de plus en plus dense. L'être humain, il est vrai, n'a jamais ressemblé à du bois. Ce serait s'en faire une idée trop grossière. L'organisme était malgré tout plus subtil qu'il ne l'est aujourd'hui. Mais pour ce temps, pour cette période comprise entre la sortie du Soleil et celle de la Lune, la partie spirituelle qui, en un certain sens, vivait déjà alternativement dans le corps ou en dehors de lui, trouvait ce corps physique lorsqu'elle cherchait à le réintégrer, densifié au point qu'il ne lui était plus possible d'y rentrer et d'en faire sa demeure. Voilà pourquoi la partie spirituelle et animique d'un grand nombre d'ancêtres humains abandonna complètement la Terre et chercha pendant un certain temps refuge sur d'autres planètes de notre système. Le durcissement survenu à l'époque qui suivit la séparation du Soleil avait rendu les corps physiques inutilisables. Seule une très petite partie des corps physiques put encore être employée et se maintenir à travers cette période. Je vous ai déjà décrit cette migration de la plupart des âmes humaines vers l'espace céleste, et je vous ai montré comment le courant terrien de l'évolution fut cependant maintenu par quelques âmes humaines, celles qui étaient les plus robustes, capables de lutter et de vaincre. Ces âmes robustes sauvèrent l'évolution à travers cette période critique. Note de l'éditeur, voir l'évangile de Saint Jean dans ses rapports avec les trois autres évangiles, 4e et 5e conférence, ainsi que l'évangile de Saint Luc, 4e conférence, et les mystères de la Genèse, 10e conférence. Fin de la note de l'éditeur. Ce que nous appelons le « je », l'individualité humaine, n'intervient pas encore réellement dans tout ce processus. L'âme gardait encore son caractère d'âme de l'espèce. Quand les âmes humaines émigrèrent, elles se réfugièrent dans les âmes groupes. Note de l'éditeur, au sujet des quatre âmes groupes, voir le cycle sur l'Apocalypse. Fin de la note. La Lune s'étant détachée, l'affinement de l'organisme redevint possible. Il put alors accueillir les âmes qui s'étaient réfugiées sur les planètes. Celles-ci redescendirent peu à peu sur la Terre jusqu'au cours de la période atlantéenne et réintégrèrent les corps humains. Certains organismes, pourtant, s'étaient perpétués à travers la période critique. Mais ils ne furent pas aptes à devenir porteurs d'âmes humaines, car ils étaient trop grossiers. Ils subsistèrent à côté de ceux qui étaient susceptibles d'un affinement ultérieur. Ils donnèrent souche à des organismes plus grossiers. C'est ce qui fait qu'à côté de ceux qui devinrent porteurs d'individualités humaines, il se maintint d'autres organismes qui ne purent pas le devenir. Ils provenaient des organismes abandonnés par les âmes humaines à l'époque où le Soleil avait déjà quitté la Terre et où la Lune lui était encore attachée. Nous voyons donc se former en fait à côté de l'être humain un règne qui, ayant conservé les caractéristiques lunaires, est devenu incapable d'être porteur d'un « je ». Ce sont les ancêtres des organismes animaux actuels. Il pourrait paraître étrange que les animaux, bien que doués d'organismes plus grossiers que les nôtres, fussent cependant en possession de facultés qui s'exercent avec une certaine sagesse dans le monde, comme par exemple dans le cas du castor. Mais il n'y a là rien d'étonnant pourvu qu'on ne croie pas les choses trop simples. Précisément, les organismes des êtres qui ne furent pas occupés par des âmes humaines travaillèrent à se créer une constitution animale extérieure, une certaine structure nerveuse, etc., qui leur permit de s'adapter complètement aux lois de l'existence terrestre. Car les êtres qui ne furent pas capables de recevoir une âme humaine étaient restés tout le temps unis à la Terre. Les autres organismes qui devaient accueillir les âmes humaines, le « je », étaient aussi sur la Terre, mais étant destinés à se transformer par suite du départ de la Lune, ils perdirent ce qu'ils avaient précédemment acquis. Donc, lorsque la Lune se sépara de la Terre, celle-ci était habitée par certains organismes perpétués en ligne continue, tels qu'ils avaient été formés jadis sous l'influence de la Lune, encore unis à la Terre. Ces organismes restèrent grossiers. Ils gardèrent leurs lois et furent à tel point solidifiés que la sortie de la Lune n'eut aucune influence sur eux. Ils se perpétuèrent simplement, sans abandonner leur caractère fixe et rigide. Les autres organismes, qui devaient devenir porteurs d'individualités humaines, ne purent pas se perpétuer tels quels. Ils se transformèrent de façon à permettre l'intervention d'âmes qui s'étaient entre-temps complètement séparées de la Terre. Après avoir vécu dans de tout autres régions, elles purent maintenant se réunir à eux. Telle est la différence entre les êtres qui conservèrent l'ancienne rigidité lunaire et ceux qui se transformèrent. En quoi donc s'est exprimée cette différence? Quand les âmes qui avaient quitté la Terre revinrent et prirent possession des corps qui leur étaient destinés, elles commencèrent à construire le système nerveux, le cerveau, etc. Elles employèrent en quelque sorte pour leur construction intérieure les forces qu'elles possédaient. Les autres corps s'étant figés ne pouvaient plus subir aucune transformation. D'autres entités s'en emparèrent alors. Celles-là en étaient restées à un degré précédent et n'avaient pas atteint un développement suffisant pour agir à l'intérieur de l'organisme. Elles s'exercèrent du dehors sur ces corps en tant qu'âme de l'espèce animale. C'est ainsi que les organismes qui en étaient capables reçurent, quand la lune se fut retirée, l'âme humaine qui façonna l'organisme de manière à lui donner la structure parfaite de l'être humain. Les corps demeurés inchangés pendant la scission lunaire ne purent se transformer. Les âmes qui en prirent possession furent celles qui n'étaient pas encore capables d'acquérir un « je », qui en étaient restées au degré lunaire, qui s'étaient assimilées toute la nature lunaire et qui devinrent alors les âmes-groupes des animaux. C'est ainsi que la différence entre l'être humain et l'animal s'explique par les événements cosmiques. Ce sont eux qui produisent dans l'évolution terrestre deux espèces d'organismes. Si nous avions dû être maintenus au niveau de la structure des êtres immédiatement inférieurs à l'être humain, nos âmes flotteraient actuellement autour de la Terre, car nos organismes seraient devenus trop rigides pour les recevoir. Elles ne pourraient pas descendre, et bien qu'étant devenus des êtres plus parfaits, nous en serions là où sont les organismes des âmes groupes des animaux. Mais nos organismes ayant pu s'affiner, nous nous sommes incarnés dans cette chair terrestre. Les âmes des espèces animales n'en éprouvent pas le besoin. Elles agissent dans les bêtes du haut des plans supérieurs. Les animaux sont aujourd'hui l'image de ce que nous serions si notre organisme n'avait pas été alors travaillé par notre âme. Comment les animaux, qui nous sont inférieurs et dont l'organisme était dur et rigide, sont-ils descendus sur la terre? C'est à nous qu'ils le doivent. Ils sont les descendants de ces corps que nous avons refusé de réintégrer après la sortie de la Lune. Nous les avons abandonnés pour en trouver d'autres plus tard, ce qui ne nous eût pas été possible si nous n'avions pu abandonner les premiers à ce moment-là. Car après la sortie du soleil, nous avons dû d'abord chercher à subsister sur la terre. Reconnaissons ici le processus par lequel nous abandonnons par exemple certains êtres au-dessous de nous pour pouvoir nous élever nous-mêmes. Il a fallu que nous passions sur d'autres planètes et laissions nos corps se désagréger sur la terre. Sous certains rapports, nous devons ce que nous sommes à ceux que nous avons abandonnés sur Terre. D'où est donc venue la possibilité d'abandonner la Terre pendant la période critique? Car un être ne peut pas ainsi s'en aller tout simplement où il veut. C'est ici que se manifeste pour la première fois dans l'évolution terrestre l'action des entités lucifériennes à notre égard. Elles furent nos guides à cette époque. Durant la période critique, elles nous arrachèrent à l'évolution terrestre. C'est comme si elles nous avaient dit « Une époque critique menace la Terre, abandonnez-la !» elles firent pénétrer dans nos corps astraux, de ce temps-là, le principe luciférien, l'attachement à tout ce que nous appelons en nous la possibilité du mal, mais en même temps la possibilité de la liberté. Si elles n'avaient pas alors enlevé nos âmes à la terre, nous serions toujours restés enchaînés à la forme que nous nous étions créés alors, et actuellement nous pourrions tout au plus flotter au-dessus d'elles sans jamais y pénétrer. Les entités lucifériennes nous entraînèrent et lièrent leur propre entité à la nôtre. Si nous saisissons ce fait, nous comprendrons aussi comment nous avons pris en nous, en partant, les influences lucifériennes. Les organismes physiques qui restèrent sur Terre ne subirent pas l'influence luciférienne. Ils partagèrent nos destinées terrestres, mais ne purent partager nos destinées célestes. Quand nous retournâmes sur la Terre, nous étions marqués de l'empreinte luciférienne que n'avaient pas ces êtres. Et c'est ainsi que la vie dans le corps physique nous devint possible sans cependant que nous en dépendions. En sorte que nous pûmes devenir de plus en plus indépendants à l'égard du corps physique. Les êtres qui, au contraire, n'avaient pas subi l'influence luciférienne, représentent pour nous ce qu'étaient nos corps astraux à l'époque comprise entre la sortie du soleil et celle de la lune, ceux-là même, par conséquent, dont nous nous sommes délivrés. Disons donc, tout ce que les animaux présentent de cruauté, de voracité, d'autres vices de bestialité à côté de l'habileté dont ils sont doués, nous en serions doués nous-mêmes si le moyen de nous en débarrasser ne nous avait pas été donné. Et nous pouvons dire, la cruauté du lion, la ruse du renard, etc., nous ont quittés et mènent hors de nous une existence indépendante. Les animaux ont en commun avec nous ce qui est le propre de notre corps astral, la faculté d'éprouver la douleur. Mais par suite des événements que nous venons de raconter, ils n'ont pu acquérir la faculté de s'élever par la douleur en triomphant d'elle, car ils n'ont pas d'individualité. Les animaux sont, sous ce rapport, infiniment plus à plaindre que nous. Nous avons certes à ressentir des souffrances, mais chacune d'elles est pour nous un moyen de perfectionnement. Nous nous élevons par elles en les vainquant. Nous avons laissé derrière nous des animaux qui possédaient déjà la faculté de souffrir, mais non pas celle qui leur aurait permis de s'élever au-dessus de la souffrance et d'en triompher. Telle est la destinée des animaux. Ils sont comme notre organisme tel qu'il était alors que nous étions déjà capables de souffrir, mais que nous ne savions pas encore surmonter la douleur et la transformer en ce qui peut faire du bien à l'humanité. C'est ainsi qu'au cours de l'évolution, nous avons laissé aux animaux ce qu'il y avait de pire en nous, et ils sont autour de nous comme les signes qui témoignent du perfectionnement que nous avons atteint. Nous ne nous serions pas débarrassés du dépôt grossier que nous portions si nous n'avions pas abandonné les animaux derrière nous. Il faut apprendre à ne pas considérer ces faits comme des théories, mais à les ressentir dans son âme. Avec un sentiment cosmique du monde, nous devons dire aux animaux « Vous voici autour de nous, vous ressentez de la souffrance. Nous autres êtres humains, la souffrance, nous en retirons un bienfait, car nous possédons le moyen de la surmonter, tandis que vous ne pouvez que la subir. Ayant reçu la souffrance, nous vous l'avons laissée et nous avons pris pour nous la force d'en triompher. » Si la théorie se transforme en un sentiment cosmique, il se développe en nous une compassion profonde à l'égard du règne animal. Là où ce sentiment a jailli de la sagesse primordiale, là où les êtres humains en ont gardé le souvenir, issu d'une clairvoyance qui découvrait l'état passé des choses, là s'est maintenue la pitié, la compassion pour le monde animal. Cette compassion renaîtra quand les êtres humains accueilleront la nouvelle sagesse spirituelle et reconnaîtront de nouveau le lien qui rattache le karma humain au karma du monde. Pendant les époques, pour ainsi dire, d'obscurcissement, où s'est implantée la pensée matérialiste, ces rapports ne pouvaient guère être soupçonnés. On envisageait alors que les choses qui sont séparées aujourd'hui dans l'espace, sans songer qu'à l'origine, tout ne faisait qu'un. Il était naturel qu'on ne sentît pas le lien qui unit l'être humain à l'animal, et dans toutes les régions de la Terre où l'on eut la mission de voiler la conscience de ce rapport, où elle fut remplacée par une conscience limitée à la surface de l'espace, l'être humain a de façon étrange payé sa dette envers les animaux. Il les a mangés. Ces faits nous montrent combien ces idées sont liées au monde des impressions et des sentiments. Ceux-ci, en dernière analyse, en dérivent. Et à mesure que les idées et les connaissances se transformeront, les sentiments et les impressions changeront aussi au sein de l'humanité. L'être humain n'a pu faire autrement que suivre une évolution. C'est pourquoi il fut obligé de laisser sombrer d'autres êtres pour s'élever lui-même. Il ne pouvait pas leur donner l'individualité qui compense par le karma les souffrances qu'ils endurent. Il n'a pu leur transmettre que la souffrance sans la loi karmique de réparation. Mais ce qu'il a pu leur donner alors, l'être humain le leur donnera un jour, quand il sera devenu libre et conscient de lui-même. Alors, en toute conscience, il comprendra la loi karmique et se dira « C'est aux animaux que je dois ce que je suis devenu. La dette que j'ai jadis contractée envers eux, il faut maintenant que je la paie en les traitant d'une manière réparatrice. » Le progrès d'évolution dû à la connaissance du karma amènera, entre l'être humain et le règne animal, des rapports meilleurs qu'ils ne sont maintenant, surtout en Occident. L'être humain a fait tomber les animaux. Il saura les traiter de manière à les faire remonter. Il existe donc ainsi un certain rapport entre le karma et le règne animal, sans toutefois qu'on puisse comparer la destinée de l'animal au karma humain. Mais si nous considérons l'évolution terrestre dans son ensemble et ce qui s'est passé pour que l'être humain se développe, nous verrons que nous pouvons parler d'un lien entre le karma de l'humanité et celui du règne animal.